Je voulais revenir sur plusieurs choses en fait qui couvrent les deux interventions. J'ai l'impression qu'on part quand même de deux postulats, qu'il y aurait un accord naturel, un consensus naturel qui pourrait être trouvé entre un commanditaire et un chercheur, quel que soit en gros son statut. Hein. Ce postulat n'est pas forcément vérifié déjà, hein. C'est-à-dire que les objectifs des uns et des autres peuvent, sur le fond, ne pas se recouper sur le fond, quelles que soient les bonnes intentions, les démarches de communication, le souci d'opérationnalité, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le terme même de recherche-action, il y a bien souvent la question du déplacement, c'est-à-dire dans quelle mesure le chercheur qui arrive quelque part arrive à déplacer des éléments du contexte pour faire apparaître des choses. Et cette question-là du déplacement, elle est toujours niée par tous les acteurs, c'est-à-dire y compris les chercheurs. Or, c'est la condition de base du travail possible, parce que si on n'a pas cette possibilité du déplacement et si on n'en assume pas les conséquences, enfin, si on ne peut pas en assumer les conséquences, autrement on est viré, on peut pas faire un travail de recherche-action, un véritable travail de recherche-action. Parce que un travail de recherche-action, ça ne peut pas être de l'accompagnement, ça ne peut pas être, justement, et c'est pour ça que c'est intéressant de le voir dans ce cadre de l'acceptabilité sociale, ça ne peut pas être de l'acceptabilité. Il faut que les commanditaires acceptent d'être dérangés dans leurs convictions, dans leur fonctionnement, etc. Sinon, un travail de recherche-action n'est pas possible, y compris dans les retours que le chercheur peut obtenir de ces organismes. Et je pense qu'à un moment donné, tu disais, c'est du gâchis, on a gâché finalement des choses avec Elitis. Non, justement, cet exemple-là montre les limites d'un type de recherche-action qui se placerait uniquement ou essentiellement dans l'accompagnement et non pas aussi dans le déplacement et la transformation. Et c'est pour ça que ce terme d'acceptabilité, il est remis en cause par beaucoup de gens. C'est parce que s'il n'y a pas cette dimension de transformation de l'ensemble des acteurs, finalement, on peut pas faire avancer les choses. La deuxième chose, c'est que pourquoi acceptabilité dans le développement durable, c'est parce que le développement durable participe à établir, asseoir, imposer, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'horizon du consensus. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut sauver la planète, qu'il faut économiser l'énergie, etc., etc. Donc on est tous dans la même galère. Or, ce n'est pas vrai, on n'est pas tous dans la même galère. Et Delphine, tu le soulevais bien quand tu disais les gens, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin à la fois de se dire bon d'accord, je vais peut-être participer à un effort de l'entreprise, je vais peut-être le socialiser dans ma vie quotidienne, etc. Mais en même temps, si par ailleurs j'ai des signes qui me sont renvoyés cantonnant cet effort-là à la question de l'énergie ou à la question d'une acceptabilité, ça ne peut pas être intégré par les individus, et heureusement d'ailleurs. Dernière chose, par rapport au champ académique, Sylvain, tu disais comment faire émerger ce champ dans le milieu académique. Peut-être que c'est pas tout à fait... Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un champ? C'est-à-dire que la copropriété, c'est plutôt un objet qu'un champ. Le champ, c'est cet objet de la copropriété, il est traversé par plein de champs. Il est traversé par le champ de l'habitat, il est traversé par le champ des mobilisations, il est traversé par des champs qui se rapprochent plus de la sociologie économique, etc. Donc, et c'est peut-être comme ça qu'on peut l'aborder dans le monde académique, c'est-à-dire aborder cet objet-là en essayant de voir dans quelle mesure il peut informer des champs qui lui sont transversaux et inversement.
Presque l'heure, je ne sais pas s'il y a des dernières réactions.
Moi j'en ai une, qui est que quand on a l'expérience d'énormément de comptes qui s'appellent des appels d'offres, on s'aperçoit que déjà l'hypothèse que l'entreprise ou l'organisation, quand elle rédige un appel d'offres ou un appel à recherche, a une vraie conscience de ses objectifs, c'est déjà qu'il n'est pas juste. Et moi, ça m'arrive de plus en plus souvent de ne pas répondre à un appel d'offres et de me fendre d'une lettre en disant il va peut-être être infructueux, et je vais expliquer pourquoi je ne réponds pas, parce que j'estime que l'objectif est clair, la question est mal posée, etc. Et c'est extrêmement courant. J'ai travaillé 3 ans avec la direction de la recherche de Gaz de France pour amener les ingénieurs qui rédigeaient des appels d'offres à penser déjà leur objectif de recherche. Et on a l'impression que c'est facile, en tout cas rationnel, objectif, dans les cas de l'organisation. On est tous des appels d'offres qui sont mis fait de l'affaire. Et on donne la méthodologie, on n'a pas l'objectif.
Ça me fait penser à une méthode qu'on est en train d'appliquer ici et que moi je trouve toujours formidable, qui est un des vrais problèmes des négociations, notamment sur les appels d'offres, même sur les... C'est la capacité à élucider, à partir des pratiques. On n'apprend pas du reste ni en soi. Surtout moi je l'ai appris à travers plutôt des pratiques psychanalytiques. Je l'ai appris au sens où on le fait, comme ça qu'on l'apprend en général. Par exemple, de mettre des mots dessus. Et ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans le domaine de l'énergie, que je ne trouve pas beaucoup. Alors, je l'ai trouvé dans l'énergie, je l'ai trouvé dans les déchets, je l'ai trouvé dans la mobilité. Ce sont des domaines pas du tout académiques, parce que c'est des domaines pluridisciplinaires ou plurimétiers. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend à vulgariser. On apprend à vulgariser, je trouve le terme très joli, parce que je suis assez d'accord avec l'analyse. Et je ne sais pas pourquoi on prend, c'est devenu un mot négatif. Enfin, on peut comprendre si. Le gars a donné la clé tout à l'heure en disant, je ne sais pas qui a dit ça, c'est une façon de refaire des silos. C'est peut-être toi qui as dit ça. Voilà, ça c'est parfait. Il y a une technicisation ou deux silos, c'est pareil, etc. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend à vulgariser en apprenant d'abord à élucider sur soi, ce qui a été très critiqué par la philosophie en France, et à l'époque, en 68, ils sont rigolants à l'époque, on disait, regarde du point de vue, indique du point de vue d'où tu parles. C'est-à-dire tout point de vue et toute information est située. Donc elle est située par rapport à des positions sociales, mais aussi par rapport à des positions professionnelles ou personnelles. Donc on apprend à élucider ça. À partir de ça, on apprend à élucider, à regarder dans les autres acteurs avec qui on est, comme on apprend à élucider le schéma, pour tous des schémas cognitifs, hein, mais aussi des schémas de pensée. Moi, je cherche toujours les schémas de causalité. Que je sens que la tension et le conflit, et je suis assez d'accord qu'il n'y a pas d'accord naturel. Je cherche toujours un accord quand même, moi je veux un contrat, donc il faut que j'y arrive. Et je pense même que ta technique de dire c'est mal posé, tu as probablement fait obtenir 1 ou 2 contrats. Peut-être pas 100, mais au moins 1 ou 2. Mais tu arrives aussi, hein, en disant moi je ne réponds pas à votre truc, c'est mal posé, c'est ridicule, etc. Ah mais tiens, ça c'est intéressant. Donc ceci est une technique qui marche par hasard, on n'a pas fait comme ça. Et donc la vulgarisation, elle passe par cette capacité à élucider. Et notamment des pratiques, ce qu'on fait, et non pas ce qu'on pense. Et je crois que c'est en psychosociologie qu'on apprend ça, si j'ai bien compris, on apprend à ce que on est plus fort ou on est plus convaincu si ça passe par une pratique. Je serais assez d'accord avec ça. Je sais qu'il y avait une totale de petites réticences, notamment sur ce qu'on appelle les urinoirs. Hein, vous savez que les urinoirs, pour hommes, c'est pour les hommes uniquement.
On va parler juste avant.
Non, ben voilà, il y a des petites abeilles et ça nous apprend à faire le besoin à l'endroit qu'il faut. Voilà, et si on tape à côté, c'est pas bon. Voilà, je sais pas ce qu'il y a pour les femmes, mais chez les hommes, c'est très clair. Ça s'appelle, je crois, la théorie de l'engagement, c'est celle-là. Oui, c'est la loge, c'est ça. Mais je savais que c'était assez proche de la théorie de. Je sais plus, peu importe. Non, mais ça, c'est l'exemple, rigolo. Hein. Mais moi, je suis pas contre que tout ce qui marche est bon pour moi. Je veux dire. Si ça évite d'avoir des trucs partout, en plus c'est pas plus mal. Je m'arrête là.